100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour à tous, le mouvement Black Lives Matter né aux États-Unis et les décès successifs de Noirs américains tués par la police. Ces événements sont à l'origine d'un sursaut mémoriel en Europe. Appel à réexaminer l'histoire coloniale du continent, à rejeter ou expliquer ces symboles qui sont partout. Le passé des ex-empires européens est passé au crible. Au Royaume-Uni, par exemple, où le débat est particulièrement vif, depuis juillet, 600 historiens s'insurgent contre le test de citoyenneté que doivent passer tous ceux qui veulent un visa ou le passeport britannique. Dans une lettre ouverte, ces universitaires dénoncent une série de contre-vérités, une vision idyllique, voire erronée, de la colonisation et du rôle de la Grande-Bretagne dans l'esclavage et son abolition. Marie Billon à Londres nous en dit plus.
Après avoir déposé ses affaires dans une petite salle, la poignée de candidats s'assoit devant des ordinateurs, séparés par des panneaux de bois, pour éviter de copier sur son voisin. Chacun a désormais 45 minutes pour répondre à 24 questions à choix multiples.
En 1833, la loi d'émancipation a aboli l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Vrai ou faux ?
Ceci est un extrait d'un exemple de test disponible sur Internet. Et pour la professeure d'histoire Claire Midgley de l'université de Sheffield à Lambe, cette question en amène beaucoup d'autres.
Juste répondre oui ou non, c'est compliqué. Si je n'avais lu que le manuel, je vois bien que je devrais répondre vrai. Mais puisque je connais l'histoire au-delà du manuel, je ne voudrais pas répondre ça, car la loi ne couvrait pas tout l'Empire. Par exemple, elle ne concernait pas l'Inde. Ensuite, les esclaves n'ont pas été libérés en 1833 ou même en 1834, quand la loi est entrée en vigueur. Ils étaient obligés de rester dans ce qu'on a appelé un apprentissage. Ils étaient forcés de rester travailler pour leurs désormais anciens propriétaires pour plusieurs années. Le but était d'avoir une période de transition, car les esclavagistes avaient peur de perdre leur main-d'œuvre tout à coup.
Claire Midgley fait partie des 600 historiens qui ont signé une pétition en juillet dernier, demandant au ministère de l'Intérieur de revoir le manuel officiel et le test Life in the UK, la vie au Royaume-Uni. Elle regrette par exemple qu'il donne l'impression que l'Empire a décidé, par bonté d'âme, d'abolir l'esclavage, sans mentionner les rébellions des victimes de l'esclavage. William Wilberforce était à l'époque le député britannique le plus actif pour demander l'abolition, mais Claire Midgley aurait voulu que la contribution, par exemple, de l'ancien esclave et activiste Oloda Ekuyano soit évoquée. De fait, la seule personne originaire des ex-colonies mentionnées dans le manuel est Sheikh Din Mohammed, cofondateur du premier restaurant de curry en Angleterre en 1810.
Je pense qu'on devrait mieux réfléchir au but, à la raison pour laquelle l'histoire doit être connue des personnes qui s'installent au Royaume-Uni. Selon moi, c'est pour leur permettre de trouver leur place dans cette société en leur montrant les liens qu'il y a avec l'endroit d'où ils viennent. On est face à un vrai rendez-vous manqué. Être plus honnête sur les bons et les mauvais côtés de l'Empire, c'est plus inclusif. À l'inverse, c'est très aliénant d'être obligé d'accepter une interprétation du passé qui ne correspond pas du tout à son vécu ou à celui de sa famille.
Mais le manuel du test n'a pas toujours été si restrictif. C'est le gouvernement de gauche, le New Labour de Tony Blair, qui a créé et instauré ce test au début des années 2000. La question de la Britishness, qu'est-ce qu'être britannique, avait alors pris une nouvelle dimension avec la décentralisation et la création de gouvernements et de parlements en Écosse et au Pays de Galles. Le 11 septembre 2001 et la question de la radicalisation de certains Britanniques ont aussi contribué à la création de ce test, explique le docteur Tim Gibbs, maître de conférence en histoire de l'Afrique à l'université UCL de Londres.
Le curriculum était assez large à l'époque, mais après ça a changé, surtout avec l'arrivée de Michael Gove au ministère de l'Éducation dans le gouvernement de coalition de 2010. Il voulait vraiment une version patriotique de l'histoire. Il y a eu une autre édition en 2013 et une autre cette année. Et il est très clair que la vision de l'histoire est de plus en plus étroite. C'est de plus en plus nostalgique et idéalisé.
Tim Gibbs, qui a signé la lettre ouverte, parle même de History Wars, de guerre culturelle finalement, dans laquelle le gouvernement conservateur serait opposé aux historiens. Mais le professeur John Charmley de l'université Sainte-Marie de Londres n'est pas d'accord.
Ce serait presque moins pire s'il y avait une volonté délibérée de réécrire notre histoire. Au moins il y aurait une raison derrière. Mais ce n'est pas fait exprès, c'est de l'incompétence. C'est une vision très ancienne de notre histoire, que plus aucun historien de nos jours ne reconnaît. C'est ce qu'on m'apprenait à l'école il y a presque 60 ans. Le ministère de l'Intérieur devrait avoir honte.
John Charmley n'a pas signé la lettre ouverte, mais c'est uniquement parce qu'on ne lui a pas proposé, dit-il. Il l'aurait signé, même s'il a quelques reproches à faire à la vision des historiens signataires.
Et en Belgique, le vent de colère qui a suivi la mort du noir américain George Floyd, tué par un policier blanc, a provoqué des déboulonnages en série de statues du roi Léopold, l'artisan de la colonisation belge. Mais pas seulement. Les autorités ont également pris une série de décisions, avec tout d'abord la mise en place d'une commission spéciale au niveau fédéral qui doit se pencher sur ce douloureux chapitre de la colonisation, Laxmilota.
Oui, c'est une commission du Parlement qui sera assistée de 10 experts. Elle a vu le jour cet été et va se pencher sur le passé colonial belge. Mais la mise en place de cette commission s'est faite dans la douleur et la polémique. Une soixantaine d'historiens belges et congolais, ainsi que des scientifiques et des universitaires s'interrogent sur le choix de ces spécialistes dans une tribune publiée dans la presse. Pourquoi n'y a-t-il pas d'historiens congolais, demande-t-il notamment. Pourquoi ne pas avoir intégré des spécialistes des archives du Musée royal d'Afrique centrale? Il réclame des recherches plus historiques, donc indépendantes dans un premier temps, établir les faits, étape nécessaire avant de débattre de la gestion de ce passé. En tout cas, tous sont unanimes pour saluer la création d'une telle commission, car à la fin, il pourra être question d'excuses de la part de la Belgique, excuses qui n'ont jamais été présentées pour les violences et les crimes de la colonisation pour l'instant.
À un tout autre niveau, Laxmi, ce débat s'empare aussi de l'espace public qui pourrait être décolonisé. La région bruxelloise y travaille en tout cas.
Le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale a voté à une large majorité la création d'un groupe de travail. Il réfléchit aux manières de traiter les vestiges de la colonisation dans la capitale belge. Faut-il retirer certains monuments et les exposer dans un musée? Mettre des éléments explicatifs à côté de statues qui font polémique et qui sont actuellement recouvertes de peinture rouge? Ajouter de nouvelles œuvres d'art qui rendent hommage aux victimes de la colonisation? Les partis politiques en faveur de ce projet souhaitent aussi que des noms de résistants à la colonisation et particulièrement des figures féminines soient donnés à des rues, des bâtiments. Le rapport final de ce groupe de travail est attendu pour l'année prochaine.
Décoloniser l'espace public, c'est une revendication ancienne en Allemagne. Depuis une quinzaine d'années déjà, des intellectuels appuyés par des partis de gauche réclament que certaines rues de la capitale soient renommées. Une première étape vient d'être franchie, puisque le conseil municipal de Berlin a décidé fin août de débaptiser la Mohrenstraße, la rue des morts. Julien Méchossi nous y emmène tout de suite son reportage.
Nous nous approchons de la rue M, et je dis bien M, parce que je souhaite éviter de prononcer le nom de cette rue, Mohrenstraße, la rue des morts. Nous allons nous arrêter à l'intersection avec la Wilhelmstraße.
Notre guide Christian Kopp milite au sein du collectif antiraciste Berlin Postcolonial, parmi les premiers à avoir engagé cette bataille pour changer le nom de la rue des morts. Et le croisement Mohrenstraße-Wilhelmstraße offre un concentré de l'histoire coloniale allemande. À partir du XVIIIe siècle, le terme de mort est employé pour qualifier les Africains noirs réduits en esclavage et revendus à la cour des rois et princes de Prusse. Si ces esclaves faisaient office de serviteurs, ils symbolisaient avant tout la présence allemande en Afrique et le pouvoir du pays colonisateur. Quant à la Wilhelmstraße, c'est là que s'est déroulée la funeste conférence de Berlin qui a scellé l'entente européenne pour le partage du continent africain. Une histoire tombée dans l'oubli, dénonce Christian Kopp.
Il y a 30 ans, le nom de la station de métro a été changé pour porter le même nom que la rue adjacente. Ça ne s'est pas passé il y a 300 ans, mais bien hier, au début des années 90. Et cela démontre à quel point l'histoire coloniale de ce pays a été et encore ignorée et oubliée de manière délibérée. Car oui, c'est une histoire difficile pour la société blanche majoritaire. Mais aujourd'hui, le temps est venu de se confronter à cette histoire. Et nous provoquons cette confrontation.
Engagé au sein du Parti des Verts et militant de la cause noire en Allemagne, Jeffrey Kwasi Klein s'est aussi battu pour faire disparaître le nom de la Mohrenstraße.
De nombreuses personnes noires qui vivent ici peuvent en témoigner. Ce terme est utilisé comme une insulte raciste. Ce n'est en aucun cas un terme neutre. Il est utilisé pour blesser, pour discriminer. En tant que noir, j'en ai malheureusement fait l'expérience, c'est bien quelque chose de vécu par l'ensemble de la communauté noire. Et c'est bien à cause du poids historique de ce terme qui renvoie à l'esclavage, à cause de sa connotation négative, que nous disons que ce terme doit disparaître de l'espace public.
Les élus berlinois ont donc voté. La Mohrenstraße portera à l'avenir le nom d'Anton Wilhelm Amo, premier noir africain à avoir eu accès à l'éducation en Allemagne au XVIIIe siècle, après avoir été vendu enfant comme esclave. Devenu philosophe, il a inscrit son nom dans les livres d'histoire pour avoir été le premier homme noir à enseigner à l'université allemande. Un changement qui en appelle d'autres, mais qui heurte les conservateurs, à l'image de Timur Hussein, responsable berlinois de la CDU, le parti des chrétiens conservateurs.
Ce sont des pratiques profondément ancrées chez les activistes de gauche. Ils cherchent à faire oublier l'histoire, ou plutôt, ils s'acharnent sur des pans bien précis de notre histoire. Ils veulent faire disparaître des faits, ne plus les voir et écrire un nouveau récit historique. Ça n'a pas marché par le passé et ça ne fonctionnera pas dans le futur. Celle ou celui qui oublie son histoire ne sait plus qui il est et ne sait plus où il doit aller à l'avenir.
Cette vision est aussi celle de nombreux linguistes et historiens exposés à coups d'articles dans les pages Opinion des grands titres de la presse, mais selon Christian Kopp, cette volonté de débaptiser des noms de rue exprime tout l'inverse.
C'est tout le contraire. Nous voulons rester au plus près de faits historiques, mais en changeant de perspective. Quitter le prisme colonial de propagande, cette vision raciste pour honorer des personnages qui se sont élevés contre le colonialisme, contre le racisme. On pourrait qualifier cette volonté de changer le nom des rues de réparation symbolique. Les personnalités noires sont complètement absentes de l'espace urbain à Berlin. C'est comme si les Noirs allemands n'avaient jamais existé.
Pour Jeffrey Quasi-Klein, cet effacement de l'histoire renvoie au passé national-socialiste de l'Allemagne.
Le régime nazi s'est efforcé d'arianiser la société, de la rendre uniquement blanche via une race soi-disant supérieure. Et pour cela, les personnalités noires et l'immigration noire ont été effacées de notre histoire. Elles ont été rendues invisibles. C'est une réalité qui n'a jamais été réparée.
À quelques dizaines de mètres du bureau de Jeffrey Quasi-Klein se trouve l'Afrikanisches Viertel, le quartier africain censé rendre hommage au continent. Avant la Première Guerre mondiale, un zoo humain avec des personnes issues des colonies allemandes d'outre-mer devait y voir le jour. Si ce projet n'a jamais abouti, nombre de rues y portent toujours le nom d'anciens généraux de l'armée allemande. Des officiers directement responsables de massacres perpétrés au Togo, au Cameroun, au Congo et de génocides en Namibie. Des rues désormais dans le viseur, des associations qui défendent la cause noire.
Mais la question se pose aussi en France. Faut-il rebaptiser les lieux qui rendent hommage au passé colonial de l'Hexagone ? À Paris, par exemple, pas moins de 200 rues, places et avenues portent le nom de figures de la colonisation, dont certaines responsables de milliers de morts. Mais pour l'heure, le gouvernement français rejette toute possibilité de changement, qu'à cela ne tienne. Deux passionnés d'histoire ont lancé une série de guides de villes françaises qui recensent et expliquent qui se cache derrière les noms sur les plaques bleues. Direction le 11e arrondissement de Paris avec les auteurs du guide du Paris colonial, Didier Epstein et Patrick Silberstein.
Féderbe, Chaligny.
Alors ici on est au coin de la rue Féderbe et de la rue Paulbert. Féderbe connu dans la guerre contre les Prussiens en 1870-1871, beaucoup moins connu pour son rôle de d'éradiqueur colonialiste en Algérie. Et Paulbert, strictement inconnu par tout le monde, malgré le fait qu'il y ait des écoles Paulbert dans pratiquement toutes les villes. Donc ministre de l'instruction publique, comme on disait à l'époque, collègue donc de Jules Ferry, suprémaciste blanc, la race blanche qui doit dominer le monde et qui est une insulte permanente aux populations, qu'elles soient françaises ou pas d'ailleurs. J'ai une phrase de Paulbert. Les nègres ont la peau noire, les cheveux frisés comme de la laine, les mâchoires en avant, le nez épaté. Ils sont bien moins intelligents que les Chinois et surtout que les Blancs.
Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit débaptiser, faire des explications ?
Et il faut aussi qu'on nous explique pourquoi on y tient tant et pourquoi cette part sombre de l'histoire de France, on est obligé d'en hériter. Il n'y a pas de colonialisme humain, on a construit des routes, des hôpitaux, des ponts, etc. Cette histoire globale, elle doit être démythifiée, débaptisée, mise au musée. Les statues, ça se met dans des musées. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir le débat.
Les choses vont bouger inévitablement parce que socialement, sociologiquement, les conditions sont réunies pour que les populations issues du monde colonial, installé dans ce pays depuis des générations, interroge son histoire et du coup interroge le nom des rues, le nom des collèges, le nom des lycées, etc., etc. Et c'est quand même pas difficile de prendre le collège et le lycée Paul Bert qui sont rue Huyghens dans le 14e arrondissement, de mettre une plaque. Et par exemple, on pourrait l'appeler Victor Schœlcher, on pourrait l'appeler du nom des victimes du colonialisme aux Antilles, etc.
Et en attendant ces changements, dernière parution en date, le guide du Bordeaux colonial sorti en juin dernier, que Didier Epstein et Patrick Silberstein ont supervisé. Rue des baptisés, dégradation de symboles du colonialisme, presque tous les ex-empires coloniaux du continent sont touchés par cette soif de réexaminer leur histoire. Et on en parle avec vous aujourd'hui, Daniel Vigneron. Bonjour.
Bonjour Léa Lisa.
Alors on l'a vu, il y a un blocage en France sur le fait de renommer certaines rues, mais l'Hexagone n'a par contre pas été épargné par la vague de déboulonnage des statues. À qui s'en est-on pris surtout ?
Le général de Gaulle a vu son effigie souillée dans une commune du Nord et en région parisienne. À Villeneuve-sur-Lot, c'est la statue de Léon Gambetta qui a été déboulonnée, ce républicain ayant soutenu la politique coloniale initiée par Jules Ferry. Et que dire de Victor Schœlcher, déboulonné lui aussi en Martinique, en dépit de sa qualité d'initiateur de l'abolition de l'esclavage. Très contesté aussi, le grand ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, qui est à l'origine du Code Noir, dont la rédaction est cependant principalement le fait de son fils. Enfin, beaucoup rêvent de s'en prendre au signe mémoriel concernant le maréchal Bugeaud, dont la conquête de l'Algérie a été un vrai massacre. Mais si sa statue a bien été mise à bas, c'est à Alger et non en France.
Beaucoup de protestations aussi au Royaume-Uni.
Beaucoup en effet, à commencer par l'abattage et l'immersion à Bristol de la statue du philanthrope, mais également négrier, Edward Colston. Si une sorte d'unanimité s'est faite autour de la demande de retrait de la statue du colonisateur de l'Afrique, Cecil Rhodes, à Oxford, la controverse bat son plein sur le tagage de Winston Churchill, jugé raciste, ou le débat autour de l'amiral Nelson, défenseur de l'esclavage. Même le Mahatma Gandhi est contesté pour son mépris des Noirs, mais c'est à Amsterdam que son effigie a été peinturlurée.
On entend moins parler de ce débat dans les pays du Sud, Daniel.
Et pourtant, en Espagne, à Barcelone, il y a eu des manifestations pour réclamer le déboulonnage d'une statue de Christophe Colomb, le colonisateur de l'Amérique. En attendant, c'est la statue d'Antonio López, riche armateur du 19e siècle et également propriétaire d'esclaves, qui a été retirée. Au Portugal, à Lisbonne, c'est celle du prêtre littérateur José Antonio Vieira, grand convertisseur d'indigènes au Brésil, qui a été vandalisée. En Italie, les manifestations ont été moins nombreuses, sans doute parce que la mémoire coloniale assimilée à la période fasciste y a été enfouie. Signalons toutefois à Milan l'aspersion de peinture sur l'effigie de l'écrivain journaliste Indro Montanelli, dont les écrits de jeunesse expriment de forts relents racistes. Partout en Europe donc, les violences faites aux Noirs américains ont exacerbé la colère contre les symboles, véritables ou supposés, de l'oppression et de la discrimination.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Léa Lisa.
Françoise Grelot était à la réalisation d'Accent d'Europe aujourd'hui. Je vous retrouve demain en direct sur RFI ou à toute heure et partout via notre podcast sur votre plateforme d'écoute. À demain.